prochain rendez-vous musical ce soir à 21h. Nous retrouvons Franck pour Série Jazz. À partir de 22h, nous retrouvons Claudio pour les musiques de films qui nous proposera à 23h dans la série des grands pianistes Arturo Benedetti, Michelangeli. Voici tout de suite en direct le libre journal de Serge de Becquet. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 avril 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir, cher Serge.
Ça va, Victoria ?
Très bien.
Bon,
on est seul. Bonsoir, chers auditeurs.
On est seul. Le ménage à trois a été brisé. Donc notre ami Goffman n'est pas là ce soir.
Pourquoi il est fâché ?
Il est fâché, oui. Ah oui, il est fâché. Il a le droit de se fâcher. Non, mais ça vous étonne ?
Je le savais père Fouettard, mais à ce point-là, non.
Et pas par influence, c'est plutôt père Fouettard. Bien, nous recevons ce soir M. Yves-Marie Lolland. Yves-Marie Lolland est président ou vice-président, je ne sais jamais les titres. Alors, approchez-vous du micro pour nous le dire.
Ça je suis président plus... maintenant, président puisque, j'ai pris la, puisque j'ai succédé à mon ami Jacques Dupaquier.
Président de l'Institut de géopolitique des populations.
Voilà.
Qui a été créé le 7 février 2000 à l'initiative de Jacques Dupaquier, membre de l'Institut de France. Et à votre initiative. Au mois de... il y a 10 jours, le Libre Journal a publié un article extrêmement intéressant qui n'a évidemment attiré l'attention de personne, sauf des abonnés qui ont de la chance et qui sont intelligents. Mais ce matin, le Figaro a publié exactement les mêmes informations relativement à l'immigration. intitulé « Le rapport qui dérange ». Et ça fait grand bruit. Et comme Yves-Marie Lolland va publier, lui, prochainement, une Bible de l'immigration dont ces informations sont extraites, j'ai pensé que c'était une bonne idée de le faire venir pour l'interroger sur ce rapport qui dérange et sur la vérité à propos de l'immigration. Cette vérité, elle commence à suinter un peu par toutes les failles du système. Un des témoignages de ce suintage, si j'ose dire, est donné encore une fois cette décade dans le Libre Journal, qui publie un article, lui aussi, je crois, assez intéressant, intitulé « Bouteflika dévoile le mensonge sur l'immigration algérienne ». C'est-à-dire, le pauvre Bouteflika, il n'a rien dévoilé du tout volontairement, mais il se trouve que on a appris à l'occasion des élections présidentielles, de l'élection présidentielle en Algérie, élection à l'issue de laquelle Bouteflika a fait un score supérieur ou inférieur à celui du roi nègre qui occupe l'Élysée.
Je crois qu'il
a fait mieux ou moins bien.
Peut-être inférieur.
Inférieur. Ouais.
Je ne suis pas sûr.
En tout cas, on a appris que 742 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales algériennes en France. C'est quand même pas mal.
Oui, ceci.
Alors, des spécialistes du calcul démographique se sont livrés à leur vice favori. Et ils en ont tiré des conclusions sur la situation réelle de l'immigration en France. Vous lirez ce papier, c'est des chiffres qui sont quand même assez ahurissants, je dois dire, et qui est confirmé par le propos de l'ambassadeur d'Algérie, qui a dit tout uniment « La France est notre plus importante wilaya ». Mais c'est déjà ce qu'ils avaient dit au moment de la guerre d'Algérie. Les Fellouz disaient, je crois que c'est la France était la quatrième wilaya administrativement, mais c'était la plus importante, c'était celle qui rapportait le plus de fric pour financer la terreur algérienne. Donc on est en train de voir que les chiffres qui sont affirmés contre toute vraisemblance par les services spécialisés ou prétendument spécialisés sont en réalité complètement fous, complètement sous-évalués. Le Figaro publie donc, je le rappelle, 10 jours après le Libre Journal, les chiffres de ce rapport qui dérange et qui ce rapport, et je l'ai dit, extrait, ou en tout cas les chiffres de ce rapport se retrouvent dans un livre que vous allez publier, Marie Lelang, et qui s'appelle « La Bible de l'immigration ». Alors, ce que je vais vous demander d'abord, c'est de vous présenter. D'où parlez-vous, comme on dit, à quel titre parlez-vous, qu'est-ce qui vous qualifie pour faire valoir vos arguments en matière d'immigration, des arguments qui sont, disons-le clairement, en tout cas démographiquement incorrects, sinon politiquement incorrects. Et puis ensuite, nous parlerons du contenu de cette Bible de l'immigration dont vous êtes, comme vous aimez à le dire vous-même, le Moïse. J'espère que vous arriverez à faire sortir un des deux peuples, soit le peuple visiteur de France, soit le peuple français, de la mauvaise situation dans laquelle il se trouve.
Ou à la rigueur, faire jaillir une source miraculeuse. Mais enfin, ça, on verra. Non, je m'intéresse à l'immigration depuis toujours. Je pense avoir été le premier en France, il y a 30 ans, à écrire, quand j'étais directeur des études économiques à la Société Générale, et ça a été publié par André Bourgine, dont vous vous rappelez le nom, certainement, sous un faux nom, parce qu'autrement j'aurais été mis à la porte. J'avais publié une évaluation des coûts, déjà à l'époque, de l'immigration, des coûts directs et des coûts indirects de la communauté immigrée en France. Bon. Et puis j'ai repris ces préoccupations dans une série d'ouvrages, je le cite sans faire de publicité bien entendu, La planète balkanisée, Les nations suicidaires. Mais le dernier en date, vous venez de le rappeler, c'est ces actes de ce colloque que j'ai organisé le 10 et 11 octobre dernier au Sénat et à la Fondation Saint-Jacques-Polignac, dont le titre exact en fait est « Ces migrants qui changent la face » de l'Europe, ces migrants qui changent la voie, et que j'intitule, en sous-titre si l'on veut, la Bible de l'immigration. Pourquoi ? Parce que je pense que, par cric et par croc, Ça veut dire, à travers d'immenses difficultés, sur lesquelles on peut revenir, nous avons réussi à mettre dans cet ouvrage qui va être publié ces jours prochains, à l'Harmattan, 250 pages, tout ce qu'actuellement l'on peut raisonnablement savoir sur les causes de l'immigration, les raisons de l'immigration, le volume de l'immigration, les conséquences de l'immigration sur le plan politique, sur le plan économique, et surtout les dangers à terme, les dangers qui sont attachés aux naissances venant des communautés immigrées, dans l'hypothèse où, hélas, l'intégration souhaitée ne se réalisera pas, mais aussi, au passage, on peut dire que l'intégration est plutôt mal partie.
Vous dites l'intégration souhaitée, ça paraît acquis, mais souhaitée par qui, au fond?
Ben, elle est souhaitée, en principe, par tout le monde, par ceux qui ont ouvert les portes de la France, qui ont ouvert en disant, ben voilà, on va faire venir des centaines de milliers de gens, ils vont s'intégrer, ils vont avoir une carte d'identité, une carte de sécurité sociale, peut-être la sécu avant la carte d'identité d'ailleurs, et puis ils vont devenir de bons Français, héritiers de Clovis, de Vercingétorix et de Jeanne d'Arc.
Et d'Abdelkader.
Abdelkader, ça c'est autre chose. Mais enfin, voilà ce que l'on pensait. Et quand vous lisez le discours officiel, tel que vous le lisez, vous aussi, et que vous l'entendez, l'on souhaite l'intégration. Le problème, c'est que l'intégration ne va pas de soi.
Je vous interroge spécialement sur l'intégration, parce que moi qui commence à être un monsieur d'un certain âge, j'ai le souvenir d'un général qui avait dit, et c'est publié officiellement par un de ses ministres, l'intégration c'est une foutaise. Au moment de l'Algérie, le général de Gaulle considérait que... alors le débat portait sur intégration, assimilation. Est-ce qu'il faut assimiler, est-ce qu'il faut intégrer? En réalité, personne ne savait de quoi on parlait. Mais en gros, on nous disait, on est pour l'intégration. Bien. Alors quand on disait à de Gaulle, il faut intégrer, il s'agissait à l'époque d'intégration en Algérie, essentiellement. De Gaulle répondait, c'est une foutaise. Et maintenant, on nous dit, l'intégration, tout le monde est pour. Moi, je tiens à dire d'abord que moi, je suis pas pour commencer. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont pour, mais c'est pas mon cas. Donc déjà, c'est pas tout le monde. À partir du moment où moi, je suis pas pour, ça en fait déjà au moins un qui est pas d'accord.
Un qui compte.
Oui, je pense que ça compte, mais enfin, je sais qu'on est quand même plus, ce vainqueur, il y a plusieurs.
Vous posez lourd, c'est bien, c'est bien.
On nous appelle Légion, car nous sommes plusieurs. Bien. Alors donc. D'abord, je ne veux pas vous attirer sur ce terrain, mais enfin, en deux mots, quand même, est-ce que vous sentez le courage d'essayer de m'expliquer ce que c'est que l'intégration aux yeux de ces gens-là qui sont pauvres?
Moi, d'abord, je ne manque pas de courage, comme vous pouvez le constater.
Donc, ça, c'est pas de vous que je parle, en l'occurrence.
Deuxièmement, je vous donne ma définition, celle que je donnais dans un deuxième colloque auquel j'ai participé, au 19 janvier, au Sénat, toujours. Qu'est-ce que l'intégration? Parce que, effectivement, on en parle. J'ai des ambitions très modestes. Alors, je vais vous le dire en deux mots, ça va peut-être vous faire rire, mais pourquoi pas. Pour moi, intégrer ces immigrés ou leurs descendants en France, c'est tout simplement leur permettre de vivre normalement en France, c'est-à-dire d'avoir une éducation normale, d'avoir un métier normal, de payer normalement les impôts, les charges sociales, de se marier s'ils le souhaitent, de faire souche, puisqu'ils y sont de toute façon, de se loger convenablement, et, j'ajoute, et éventuellement, si ce n'est pas trop demandé, et si ce n'est pas trop rêvé, d'aimer également un petit peu la France, d'apprendre un petit peu sa langue, son histoire, bref, d'avoir quand même un peu de ciel bleu dans leur cœur. Bleu, blanc, rouge, hein.
Ouais. Alors, ça, c'est une belle espérance, comme d'ailleurs toutes les espérances, mais l'espoir fait vivre. En l'occurrence, cet espoir, il fait surtout vivre les gens qui viennent vivre en France. La question que pose, la seconde question que pose cette proposition, ce rêve de l'immigration, c'est la question du pourquoi et du comment. Et alors la question du pourquoi, moi je vais vous la poser très directement, il se trouve que je suis un métis, hein, puisque mes grands-parents paternels étaient russes. et que mes grands-parents maternels étaient français, eux-mêmes étant d'ailleurs un peu métis, puisqu'ils étaient alsaciens.
Cela vous sera pardonné.
Du germain, je sais, oui, de toute façon, maintenant c'est assez bien porté, on peut l'avouer. Ah bon. Quand j'étais jeune, c'est moins facile, mais maintenant on peut le dire. Maintenant, c'est un must, comme on dit. Alors, je sais, moi j'ai vécu, si vous voulez, la situation très très affaiblie, très atténuée, de quelqu'un qui vit à la charnière de deux cultures, de deux civilisations, on peut même dire, en ce qui concerne la civilisation slave et orthodoxe et la civilisation française et catholique. Et je sais que c'est pas toujours très facile, ça fait l'espèce de gens bizarroïdes. Mais quand vous essayez de réaliser le métissage parfait, qui est l'aboutissement de l'intégration, entre des gens qui, même à l'intérieur de leur propre système, ne sont pas métissés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la difficulté personnelle d'être le résultat de deux cultures et de deux civilisations, mais qui sont des gens qui arrivent entièrement fabriqués par une culture, une civilisation, une tradition et une famille dans un milieu qui, lui, leur est étranger, quand on voit les difficultés que ça représente, on se dit que on n'y arrivera jamais. Surtout quand on mesure l'extraordinaire fossé qui sépare à tout point de vue. Au point de vue des goûts en matière artistique, au point de vue des traditions, au point de vue des références, au point de vue de la mémoire, au point de vue de la cuisine, à tout point de vue, la civilisation arabo-musulmane, c'est de celle-là qu'on parle, il faut être clair, de la civilisation catholique et française. Alors, parler d'immigration dans ce cas-là, c'est un peu d'intégration dans ce cas-là, c'est, disons les choses clairement, il s'agit de savoir si c'est le lapin qui veut bouffer le serpent ou le serpent qui veut bouffer le lapin.
Oui, en espérant qu'ils ont l'un et l'autre un excellent estomac. Mais d'abord, moi ce que je voudrais dire, c'est que nous avons été, dans ce domaine, abreuvés de mensonges pendant 30 ans. Pendant 30 ans, les médias nous ont raconté des messages, encore tout récemment. Sur la 5, j'ai entendu un éminent démographe, enfin éminent, je mets des guillemets, dire
et
que... Comment ?
Et des points d'ironie.
Oui. Je ne nommerai pas, il s'agit simplement d'Hervé Lebrun, que vous connaissez peut-être, qui est un sinistre personnage. C'est un sinistre personnage. Je l'ai entendu il y a peut-être 15 jours. Il est toujours invité d'ailleurs sur la 5. J'écris d'ailleurs aujourd'hui même à Yves Calvi pour mettre les points sur les i, que l'immigration était un simple ruisselet en voie de contraction. Le ruisselet, vous l'avez aujourd'hui sur la pleine page du Figaro de ce matin, des vrais chiffres d'immigration, c'est entre 200 000 et 250 000 entrées.
On a envie de dire le ruisselet ment.
Un ruisselet, oui. Alors, 4 fois 250 000, ça vous fait 1 million. En 4 ans, ça fait 1 million. Or, il est toujours dit là-dedans, ce que nous avons cessé d'affirmer depuis toujours, que la fécondité, premièrement, des immigrés a cessé de décliner depuis 10 ans. On nous a toujours rebattu les oreilles en disant, oh, vous savez, dans quelques années, ça y est, ils font autant d'enfants que les Françaises. C'est faux. C'est un mensonge éhonté. Elle est le double.
De toute façon, c'est une course. Parce que les Français font de moins en moins d'enfants.
Laissez-moi terminer un petit peu mon propos, parce qu'il est important, avant que d'un an plus loin, c'est que, ce qui est le problème, c'est évidemment la présence immigrée d'aujourd'hui, mais pire encore, celle de demain. Et nos projections sont effrayantes, car sur la base du recensement, nous sommes seulement en double la vérité, ça veut dire que dans 25 ans, près de 30% du total des naissances, je dis bien près de 30% du total des naissances enregistrées dans notre pays, seront originaires de descendants des communautés turques, maghrébines ou Afrique noire.
Et un enfant sur trois.
Oui, et après, ça sera 40%. Vous voyez pourquoi le problème de l'intégration est fondamental. Parce que nous n'avons pas le choix, nous sommes le dos au mur, à moins de déclencher des vêpres siciliennes, mais il n'est pas sûr que nous gagnions ce genre de confrontation. Il faut intégrer. Et le drame des 30 dernières années et que d'une part nous avons ouvert les frontières et d'autre part les socialistes, pour ne pas les nommer, mais également la droite, il faut le constater, a estimé que l'intégration allait se faire d'elle-même avec des gens, effectivement, vous venez de le rappeler, de cultures totalement différentes, etc. Moi je vous cite d'ailleurs un exemple que j'ai vécu. J'étais professeur à Paris 2, j'allais faire des cours à Melun. Et je me rappelle, quand j'arrivais à la fin du RER, je me rappelle voir à 10h du matin des jeunes gaillards un peu bronzés, à 10 heures du matin, se courser les filles, vendre de la drogue, fumer des cigarettes ou sauter le tourniquet. Des gaillards entre 15 et 25 ans. Et on va faire de ces gaillards, on va faire donc des bons Français, informaticiens, payant leurs impôts et respectueux de la loi. De qui se moque-t-on? Ça, c'est le résultat de 30 ans de négligence, et je pèse mes mots, criminels. Alors, maintenant, à partir de ce constat, qu'allons-nous faire?
Attendez, avant,
nous attendons que la hache tombe, ou bien est-ce que nous essayons d'éviter le coup? Alors,
je voudrais quand même qu'on approfondisse un peu le constat, parce que le débat que vous venez d'évoquer, c'est un vieux débat chez les gens un peu libres d'esprit.
Mais bien sûr qu'il est vieux.
Mais il faut, je crois qu'il faut l'alimenter de chiffres, parce que s'il y a débat, c'est parce qu'il y a échange d'arguments. Or, un des arguments de la partie adverse, vous venez de l'évoquer, l'argument de Lebras, c'est de dire...
Oh, il n'y a pas le seul, hein.
Non, bien sûr, c'est pas le seul.
Nous reviendrons sur le sujet dans un moment.
C'est même ça représente la seule véritable force qui s'exprime. C'est-à-dire, tout le reste est condamné au silence. Parce que j'aime beaucoup la maison d'édition qui vous publie, l'Harmattan. Je trouve que ce sont des gens courageux, et c'est tellement rare dans le milieu de l'édition qu'il faut les saluer.
Il y a De Guibert également.
Oui, bien sûr. C'est rare. J'ai pas dit que c'était
rare. Il y en
était le seul.
J'en connais que deux.
Il y a d'autres
le
mecs qui sont
peut-être.
En dehors de la nébuleuse décrétée de droite, d'extrême droite, ça fait partie des rares maisons qui sont courageuses. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même pas une des plus grosses maisons d'édition française.
Ah, l'Harmattan, 1500 contre par an.
Quand t'es là, oui. Mais enfin, quand vous avez en face de vous des gens comme Flammarion qui publient les livres. Enfin, les livres, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la bande de voyous de Ralph Ron, qui appellent au meurtre tout simplement contre tout patriote français. C'est la résistance est difficile pour des petites maisons comme ça. Donc, je crois qu'il faut apporter les arguments au débat, les arguments chiffrés. Quand vous avez quelqu'un comme Lebras et sa bande qui nous disent l'immigration est un ruisselet, je crois qu'il est important de leur dire, attendez, vous vous moquez du monde, c'est pas un ruisselet, voilà la réalité, et voilà la réalité actuelle, voilà d'où vient cette réalité, et voilà par projection où elle nous conduit. Et c'est très important de le faire. Ensuite, on pourra aborder la question essentielle, évidemment, des solutions.
Mais attendez, les chiffres, ils sont dans le Figaro de ce matin.
D'accord, mais ils étaient dans le livre journal du...
Nous les connaissons depuis 6 mois.
Voilà, mais je pense qu'il faut quand même les citer.
Et nous avons publié, n'oublions pas, sous ma plume et celle de Jacques Dupaquier, un article, à la suite du colloque d'ailleurs, en octobre, qui reprenait exactement les mêmes chiffres. 6 mois après, ils sont publiés en première page du Figaro. Donc vous voyez, et ils sont clairs, quoi. Les courants migratoires sont plutôt de l'ordre de 250 000 par an, tout compris, bien sûr, y compris les clandestins, que les 65 000 que M. François Héran, directeur de l'INED, nommé à la tête de cet organisme par Jospin, publié dans La Croix et dans Population et Société au mois de janvier dernier. Donc vous voyez que le combat pour la vérité et le combat contre la désinformation est à mener au quotidien, parce qu'il n'a pas, jusqu'à maintenant, été démis de ses fonctions. Il continue à publier ce genre de mensonges.
Non seulement il n'a pas été démis de ses fonctions, mais c'est un haut fonctionnaire, Héran. Si je ne me trompe pas, l'INED, ça fait partie de la fonction publique.
L'INED est une établissement public comme l'INSEE, exactement.
Voilà un homme qui est payé par les contribuables français, et je suppose qu'il est
payé pour mentir. Voilà.
Et il est payé pour mentir.
Il
est payé pour faire régner la terreur contre ceux qui s'opposent au mensonge.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il est en train de casser de l'intérieur l'institution.
Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il y a 3 mois, il a dénoncé une étude qui naturellement allait contre les idées reçues à propos de l'immigration.
Non, c'est l'article de Jacques Dupaquier que nous avons écrit ensemble du mois de janvier pour dénoncer ces mensonges. Alors là, fou de rage, il a fait une circulaire interne qui nous a été communiquée d'ailleurs, et il nous traitait de gens inqualifiables et dissuadait ses chercheurs de fréquenter des gens infréquentables.
Ouais. Ça, c'est du terrorisme intellectuel ou
totalement, c'est du totalitarisme stalinien ou nazi, comme
mais
vous voulez.
beaucoup plus vicieux que ça. Là, je pense qu'on ne va pas être d'accord, mais je vais quand même vous dire mon impression. C'est que quand Sarkozy est arrivé au ministère de l'Intérieur, il a dit il faut rompre avec le mythe de l'immigration zéro. C'est-à-dire, l'immigration zéro, c'est impossible, on est obligé d'avoir des immigrés, et on en aura, etc. Et puis, il faut dire, il a ajouté rituellement, il faut dire la vérité aux Français. Et il faut donc publier les véritables chiffres de l'immigration en France, pour montrer aux Français que la situation est ce qu'elle est, et que de toute façon, il faut l'accepter, et puis voilà. Or, dans le même temps où il fait ça, il publie une circulaire qui est envoyée aux municipalités, en tout cas aux municipalités à forte population immigrée, en disant à ces municipalités, j'interdis la communication à la presse des actes des états civils. Parce qu'il est évident que quand vous allez, quand vous regardez le journal municipal de Seine-Saint-Denis ou de Saint-Denis, vous voyez les naissances, les mariages et les décès. Et là, il vous saute à la figure quelque chose, mais il suffit de lire, c'est que les naissances, c'est à 90% des étrangers, ou enfin des étrangers, des allogènes. Les mariages, c'est à, disons, 60% des mariages mixtes. Et les décès, c'est à 90% des Français de souche. Donc là, on est dans une situation qui prouve, aux yeux de tout lecteur attentif, la réalité de ce qu'on pourrait appeler une immigration de, une immigration de peuplement par, par substitution.
Bien sûr, c'est évident.
Et ça, ce qui est très grave, me semble-t-il, le fait est grave en soi, mais ce qui est grave aussi, c'est le mensonge qui entoure ce fait.
Oui, mais là où je diffère de votre point de vue, c'est que vous avez l'air de dire Monsieur Sarkozy n'a pas dit toute la vérité, il a pris des mesures qui la préviennent, etc. Je n'ai pas connaissance de la circulaire en question, mais je sais, et je parle à titre personnel, que j'ai trouvé quand même auprès de ses services infiniment plus de compréhension et d'aide, de concours dans le travail pour la vérité que je mène depuis fort longtemps, qu'auprès de n'importe quel autre ministère, et depuis fort longtemps. Autrement dit, il est possible que nous ayons là un allié qui ne fasse pas ou qui ne puisse pas faire tout ce qu'il souhaitait, mais nous avons quand même un allié. Et ce qui me paraît important, c'est le concours positif qu'il apportait à cette œuvre. Et d'ailleurs, vous, dans l'article en question, vous verrez qu'il a laissé derrière lui une mission et qui permettrait, semble-t-il, et sur ma recommandation express, car je suis à l'origine de tout cela, de permettre de bâtir des statistiques permettant de saisir l'immigration dans toutes ses composantes,
Il a laissé ça, mais je me permets de vous faire remarquer que le jour même de son entrée à la place Beauvau, son successeur, M. Dominique de Villepin, que le Libre Journal a appelé Dominique de Villepin, a eu pour première manifestation publique, s'est manifesté pour la première fois en public, en allant toutes affaires cessantes participer à la réunion du bureau du Conseil français du culte musulman à la Grande Mosquée de Paris, dont il a félicité les membres pour le travail accompli et à qui il a promis de lutter énergiquement contre tous les amalgames entre islam, intégrisme ou terrorisme. Alors, on connaît le côté rituel de ce genre de gesticulation, mais le fait est que je me permets de douter qu'un homme qui fait ça comme premier acte dans son ministère conserve longtemps des dispositions qui sont de nature à réduire la question de l'immigration.
Et moi, je ne porterai pas de jugement sur l'action ou les paroles de M. de Villepin. J'ai mon opinion personnelle que j'ai exprimée dans un livre dont on a parlé ici même, Chirac et le déclin français. Peut-être avez-vous parcouru cette œuvre immortelle et je consacre effectivement quelques pages ou quelques lignes à cet intéressant personnage. Je crois simplement que si il ne joue pas le jeu, c'est-à-dire s'il ne poursuit pas avec vigueur, avec fermeté, l'œuvre de son prédécesseur, eh bien la droite perdra le pouvoir dans 3 ans. Et il est clair que M. de Villepin, qui, comme vous le savez, nourrit maintenant des ambitions politiques, a vraiment intérêt à ne pas décourager les supporters qu'il peut avoir et à s'engager sur ce terrain. Sinon, il est condamné. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il le fasse quand même, parce que vous savez que l'intelligence politique n'habite pas toujours les représentants de la droite. Mais enfin, en tout cas, il est clair que s'il ne le fait pas, il est cuit.
Merci de me rappeler cette évidence, elle m'avait échappé.
Il faut qu'elle soit rappeler la vérité.
Je voudrais revenir à vous, parce que tout à l'heure, je vous ai demandé de vous présenter, vous l'avez fait d'une façon rapide, et puis vous avez eu un
Je peux vous citer mon curriculum vitae, en détail, si vous voulez. raisonnement pour des minutes. Hein.
Vous avez parlé du courage. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que comme on n'est pas d'accord sur certains points, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'importance d'ailleurs, mais enfin, en ce qui vous concerne, ce n'est pas très important que je sois d'accord avec vous.
Enfin.
Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que vous êtes, étant donné la situation, les situations que vous avez occupées et celles que vous occupez aujourd'hui, un des personnages courageux dont on a besoin dans notre pays. Et je voudrais en donner une preuve. C'est que vous avez publié, il n'y a pas très longtemps, un article dans lequel vous avez écrit une phrase qui est une phrase, dans l'état actuel des choses, extrêmement courageuse, je dirais même téméraire. Vous avez dit « La France devient une société criminogène. La violence gagne de proche en proche toutes les couches de la société et toutes les facettes de la vie sociale. Parmi les différents facteurs de ce phénomène, l'immigration et l'intégration occupent une place de choix. » Or ça, c'est exactement le genre de choses qu'on n'a pas le droit de dire.
Bah, ce que j'écris aussi, c'est que la carte de l'insécurité et la carte de l'immigration se recoupaient exactement. Ce qui, évidemment, n'est pas vraiment du politiquement correct. Mais je pense qu'à force d'asséner ce genre de vérité et d'évidence, les pouvoirs publics sont obligés quand même d'en tenir compte. Il y a un proverbe que vous connaissez sans doute, c'est « la vérité ne triomphe jamais, mais les menteurs finissent par mourir ».
Oui.
Et nous assistons actuellement à la mort d'un certain nombre, la mort politique bien sûr, d'un certain nombre de menteurs, ce qui me fait plaisir, et j'espère assister bientôt à la mort administrative, je dis bien administrative, du personnage que j'ai cité tout à l'heure, l'actuel directeur de l'INED, qui, vous avez raison, fait régner la terreur au sein de l'institution. Et je lui écris d'ailleurs aujourd'hui même une lettre que je rendrai publique, dans laquelle je l'incite vivement, pour sauvegarder l'honneur de l'INED, dont il a la sauvegarde, d'attaquer en justice le Figaro, qui publie des chiffres naturellement mensongers au sujet de l'immigration. Je ne sais pas si je suis vraiment conseil. Pourtant, il est le sens de l'humour.
Vous savez que le deuxième degré passe très très mal à la radio. Mettre des gros guillemets.
Je vais mettre des grosses guillemets. Je veux dire par là que les chiffres de Figaro sont exacts et que monsieur Errant a menti de façon grossière et délibérée, mais c'est une façon aimable de le tourner en ridicule. Enfin,
alors, dans le même article que j'ai commencé de citer, vous évoquez le silence, vous dites, donc parmi les différents facteurs de ce phénomène, l'immigration et l'intégration occupent une place de choix, et vous ajoutez, or ce sont précisément ces deux termes qui sont totalement absents du discours politique. Et ça, c'est tout à fait frappant. Lors de la dernière campagne des régionales, dont les responsabilités... l'élection pour les représentants des régions, dont les responsabilités incluent également la gestion, comme on dit maintenant, de l'immigration, on n'a pas entendu un seul mot sur l'immigration. C'était absolument stupéfiant. Et je dois dire, je sais que ça va encore me faire des amis, mais j'ai trouvé que mes amis du Front National avaient été d'une discrétion de violette sur cette question, en général, dans les débats. On dirait que ça fait plus partie du débat. Alors, on en a parlé hors antenne, et je vous ai dit qu'au fond... on arrive dans une situation tellement grave, tellement désespérée, c'est-à-dire privée d'espérance, que je comprends qu'il y a des gens qui se disent « bon, c'est même plus la peine d'en parler, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire ». Mais comment expliquez-vous, on va voir les solutions tout à l'heure, mais comment expliquez-vous, si vous avez une explication, ce silence des politiques sur cette question ?
Eh bien, je vais dans votre sens, en ce sens que le rapport Le Bon, qui fait l'objet de la publication en première page, on ne peut pas le louper, de Figaro, a été mis sous le boisseau pendant pratiquement un an, en fait, sur instruction du ministre de la Solidarité, de la Population, etc., M. François Fillon, et il a été mis sous boisseau jusqu'au régional, parce qu'il ne fallait pas que le débat sur le régional soit pollué par l'évocation des questions d'immigration. Ce qui montre bien que, là vous avez tout à fait raison, les politiques n'ont pas encore compris que, loin de le cacher, il faut au contraire exorciser cette question en en parlant aussi souvent que nécessaire, aussi fortement que nécessaire, parce que ce n'est pas en cachant les problèmes qu'on les fait disparaître, au contraire, on les aggrave. Alors, là où je suis un peu différent, j'ai une position différente par rapport à vous, c'est que vous avez l'air d'être négatif sur les possibilités d'intégration. ainsi définie, telle que j'ai définie tout à l'heure. Moi, je suis non pas plus optimiste, mais plus volontariste que vous. Et je le suis d'abord parce que je pense que nous n'avons pas le choix. Ou bien nous réussissons l'intégration, ou bien nous sommes cuits. Nous sommes cuits, c'est-à-dire que la France va disparaître, ça va devenir une espèce de terrain vague, un peu de type Irak, où des communautés vont vaguement s'étriper dans un processus de sous-développement à l'Argentine. On n'aura plus de fric pour payer les retraites, plus de fric pour payer la sécurité sociale, plus de fric pour payer les infrastructures, pour téléphoner, il faudra revenir aux manivelles d'autrefois. Enfin bon, le chaos.
Le rêve, quoi, ça.
Hein?
Le rêve.
Oui, le rêve, oui. Alors, il y a des rêves qui sont des cauchemars, vous êtes d'accord avec moi.
Bon. Je me dis, le téléphone à manivelle, ça me semble.
Bon, et puis des vélos à pneus pleins, enfin, vous voyez, des choses intéressantes.
Ouais.
Il se trouve que moi, j'ai 5 enfants.
Mais si, il faut payer ça.
Et je n'ai pas l'intention, tant que j'aurai un souffle de vie, de laisser ce genre de perspective
s'il faut
se
accepter
préciser.
Des téléphones à manivelle et des vélos à pneus pleins pour être libérés. Pour voir notre pays libéré,
là,
moi je suis prêt à en prendre.
Là, nous commençons à trouver un chemin commun. Nous trouvons un chemin commun. Parce que, là, c'est très, très intéressant ce que vous venez de dire là. Ce que vous venez de dire, sous cette image un peu colorée dont je suis responsable, c'est que si nous voulons nous sortir de cette situation, il faut que les Français se prennent par la main aussi. Là, vous avez raison. C'est ça que vous voulez dire. À deux niveaux. D'abord, il est imbécile de lutter contre l'immigration si en même temps on ne fait pas repartir la fécondité. En France, il y a, d'après les enquêtes, un taux de fécondité virtuel de 2,3, qui est largement suffisant pour renouveler la population, et les femmes ont en réalité, non pas 1,9 enfants par femme, comme on nous le prétend, parce que là-dessus vous avez un très grand nombre d'enfants d'immigrés là-dessus. Sur 750 000, vous avez 165 000, 150 000 au moins, enfants qui naissent des communautés immigrées.
Un cinquième.
Qui, par conséquent, un sixième, un cinquième, on ne sait pas, parce qu'on nous refuse de connaître la vérité. Mais il y a dans les populations qui viennent au monde en France, une proportion considérable d'enfants d'immigrés. Bon, donc il faudra donc assurer l'intégration, ou alors c'est la guerre civile et la destruction de ce pays. Donc par volontarisme, je pense que l'on peut faire quelque chose. Mais on ne peut le faire qu'en permettant à ces Françaises, et là je vais paraître, comme je suis d'ailleurs le premier féministe de France, donner aux femmes françaises la possibilité d'avoir autant d'enfants qu'elles le veulent. C'est un autre débat, on ne va pas le soutenir ici, mais il passe par les mesures d'accompagnement, les mesures d'investissement social nécessaires pour faire en sorte que les jeunes filles, les jeunes femmes ne se condamnent pas à une situation intenable, impossible, si elles ont plus de 2 enfants. Et je le sais par expérience, ma femme en a eu 5. Et ma mère en a eu 5 aussi, mes sœurs également. Je sais ce qu'ont vécu ces familles-là et qu'a vécu ma famille. Actuellement, le sort que leur est fait est intenable.
Vous dites qu'on ne va pas parler, mais si, on va en parler quand même, parce que là où on atteint le cœur de cette machine ubuesque qui est devenue la France, que j'appelle moi l'Hexagone maintenant, parce que la France, je ne sais pas où elle est passée, ce système, cette espèce d'entité administrative au sein de l'Europe qui s'appelle l'Hexagone, réalise la folie furieuse, par exemple, de subventionner le remplacement de population en consacrant les allocations familiales qui étaient censées soutenir la fécondité des Françaises en France à payer des gens pour venir faire en France des enfants qui n'ont rien de français, même pas leurs parents, puisque en vertu du droit du sol, autre crime giscardien, n'importe qui naît en France devient français, un peu comme si, comme disait Le Pen, une vache née dans une écurie se faisait appeler cheval. Bon, on est dans le délire, c'est-à-dire que d'une part, on nous dit on ne peut pas subventionner les naissances des Françaises parce que ça coûterait trop cher et que ça supposerait le salaire maternel, ça supposerait la gratuité totale des soins, enfin, etc., etc., etc. Ça supposerait le financement scolaire par le bon scolaire, ça nous emmènerait très très loin. Et en revanche, on peut parfaitement financer le fait que les femmes viennent de Boubou Lasso, d'Alger, de Tunisie, d'Égypte, de Turquie pour accoucher en France et faire des enfants français, c'est indiscutable.
Non, mais il était clair que moi-même, je me rappelle avoir vu un bulletin de salaire de la mairie de Paris où l'on voyait une dame fort charmante, non, un monsieur, pardon, qui recevait l'allocation familiale de Madame Modibo Keïta numéro 1, Madame Modibo Keïta numéro 2, il y en avait 8 comme ça. Et cet homme vivait très bien d'ailleurs, c'était un homme très ouvert, très généreux, et qui vivait dans des conditions assez confortables. Bon, mais en dehors de cette plaisanterie, je crois que nous touchons là à un problème important à deux égards. D'abord, bien que cela fasse rugir certains de mes amis, je pense qu'il faudrait soit supprimer, soit fortement diminuer les allocations familiales au-delà du troisième enfant. Pourquoi ? Parce que le nombre de familles d'origine française qui ont plus de trois enfants est infime et l'on pourrait prendre en fait des mesures spécifiques. Par contre, ceux qui ont des 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants sont effectivement des personnes qui sont originaires des pays que vous venez de décrire, c'est-à-dire Mali, Afrique noire, Maghreb ou Turquie. Bon, donc on est en train de faire du financement à l'envers. Deuxièmement, et deuxième idée, je crois quand même très fortement que ou bien on s'arrache les cheveux et l'on va au club méditerranéen, ou bien les Français acceptent, pour sauver leur pays et pour se sauver eux-mêmes, de consentir des sacrifices. Vous avez dit, mais ça coûte trop cher de prendre des crèches gratuites. Eh bien non, ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte pas si cher que ça. J'ai fait des calculs qui montrent que, en relevant les allocations familiales d'un montant tout à fait significatif, l'on pourrait effectivement faire en sorte, comme l'ont fait à un moment donné les pays scandinaves, permettre aux femmes qui veulent avoir des enfants de les avoir, de les faire élever, d'avoir de l'aide domestique, etc. Et en même temps d'exercer un métier. Vous ne pouvez pas, monsieur, condamner des femmes qui vous envoyez à l'université avec bac plus 3, bac plus 4, plus 5, à revenir chez elles pour avoir des enfants et en faisant une grande croix sur toute possibilité de métier ou de possibilité de carrière. C'est intenable. Donc, il faut leur permettre d'avoir un métier, de l'exercer convenablement et en même temps d'avoir, si elles le souhaitent, des enfants. Si on ne fait pas ça, et si les Français sont infichus de consentir des sacrifices financiers, pour cela, ils ne méritent pas de survivre en tant que nation. Je suis clair là-dessus.
Vous parliez de supprimer de réduire les allocations familiales, voire de les supprimer.
Au-delà du troisième enfant.
Mais moi, j'ai une autre proposition à vous faire, parce que celle-là, elle me paraît arbitraire. Il y aurait un autre moyen qui reviendrait à favoriser les gens qui le méritent. Ce serait de dire qu'on instaure des allocations familiales avec des coefficients, je dirais, multiplicateurs ou renforçateurs. Par exemple, si votre père a fait son service militaire dans l'armée française, vous avez un coefficient de 1,5. Si vos grands-pères et le père de votre mari, si vous êtes une femme, les pères du couple ayant fait leur service militaire en France, ça permet un coefficient multiplicateur. Si les grands-pères ont fait leur service militaire en France ou ont servi la France d'une manière ou d'une autre, ça introduit un autre coefficient multiplicateur. Et là, on arriverait vite à réduire la question, parce que Madame Mokhtar Ben Saïd vienne faire des enfants en France qui seront français et qu'elle reçoive des allocations familiales, c'est entendu, mais elle aura les allocations familiales au tarif de 1. Tandis que Madame Le Mercier, qui a des parents français, des grands-parents français, des arrière-grands-parents français, qui ont construit la richesse de la France, ce qui permet à Madame El Mokhtar de venir faire des enfants facilement en France, sans avoir, elle, rien construit, eh bien, cette dame-là, cette Madame Le Mercier, elle aura beaucoup plus d'argent pour ses enfants, ça me paraît très logique, ça.
Oui,
on distribue la Légion d'honneur aux gens.
Oui.
Mais ça, la Légion d'honneur, c'est un rocher. J'ai vu les attributions de la Légion d'honneur pour la rafle de Pâques. C'est à se taper le derrière contre la suspension. C'est comique. C'est comique. Quand je pense que moi qui suis pupille de la nation, mon père est mort pour la France, mort au champ d'honneur. On ne lui donne pas la Légion d'honneur parce qu'il était sous-officier, c'est un prétexte comme un autre, mais que n'importe quel pousseur de romance, n'importe quel guignol qui fait le pantin sur les scènes, n'importe quelle pute de cinéma se balade avec la Légion d'honneur sur la poitrine, ça, c'est grotesque. Alors plutôt que de donner la Légion d'honneur aux gens, donnons-leur des coefficients multiplicateurs d'intérêt français. Vous êtes, votre père ou votre grand-père a servi la France, tenez, vous aurez deux fois les allocations familiales, ou une fois et demie, ou trois fois.
Oui, il y a une façon également de jouer sur ce coefficient familial. Ça a été suggéré à différentes reprises par différents auteurs, c'est-à-dire de gonfler les allocations de retraite d'un coefficient très fort associé à, aux enfants qu'ils ont mis au monde, oui. Ce qui ferait de moi un multimillionnaire, je m'en réjouis par avance, enfin en rêve bien entendu, ou alors de doter également leur vote, leur droit de vote, d'un coefficient multiplicateur en fonction des enfants.
Ça, c'est le vote familial, ça c'est la moindre des choses.
Voilà, mais ce n'est pas le cas.
C'est la base même.
Voilà, mon vote compte. Mais voyez, de toute façon, pour en venir à ce problème des décorations, je veux dire que pour ma part, je ne porte plus mes décorations en raison de cette espèce de pantomime grotesque que je vois effectivement s'afficher dans la presse, qui est devenu un instrument de décoration politique, qui n'a rigoureusement aucun sens. Ça, bon, mais enfin, passons là-dessus.
Alors, non, je dois signaler que vous n'écoutez pas la radio anarchiste, vous écoutez Radio Courtoisie. Sur la longueur d'onde où vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes à Paris c'est 95.6, si vous êtes ailleurs c'est autre chose, donc c'est bien Radio Courtoisie. Et je reçois, alors il faut que ça que je le rappelle, je reçois Yves-Marie Lolland qui est président de l'Institut de géopolitique des populations.
Je voudrais ajouter à cet égard, monsieur, que ceux des auditeurs qui souhaitent recommander notre Bible de l'immigration qui va sortir peuvent le faire en m'écrivant. Institut de géopolitique et population, Institut de géopolitique et population, 20 rue d'Aguesseau, A-G-U-E-2-S-E-A-U, d'Aguesseau dans le 8e. Voilà. Et à ce moment-là, je me ferai un plaisir de leur envoyer ce précieux livre qui est
Victoria
fondamental.
Je me ferai un plaisir, elle, de redonner votre adresse.
Ah, je compte sur Victoria.
Plusieurs fois.
D'ailleurs, Victoria, c'est un beau symbole de la victoire, de la victoire de l'esprit, de la pensée. Et de la vérité sur le mensonge.
Alors revenons aux solutions. Bon, on a eu.
Alors, les solutions, il y en a. Mais je voudrais, devant vous, monsieur, et devant les auditeurs qui nous écoutent, moi j'espère, faire comprendre que toute victoire a un prix. Toute victoire a un coût. Si les Français veulent sortir de la trappe, de la nasse dans laquelle nous sommes fourrés, par 30 ans de négligence criminelle, il faudra payer. Et il faudra payer très cher pour faire en sorte que, d'une part, nous nous efforcions au moins de gagner ce pari de l'intégration et que d'autre part, nous puissions à l'avenir nous dispenser de ces immigrés supplémentaires que M. Alain Juppé appelait de ses voeux, rappelez-vous, dans un article qui m'a fait bondir il y a 3 ans à peu près. Je lui ai envoyé une lettre.
Vous parlez du repos de justice, là.
Comment ?
Vous parlez du
repos. Non, il avait publié dans Le Monde, s'il vous plaît, il y a 3 ans, me semble-t-il, un article dans lequel il disait qu'il nous faut absolument des immigrés. Et je lui ai écrit parce que je le connais personnellement. Mon cher Alain, à chaque fois que je vous quitte du regard, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire des bêtises. Ça n'avait pas fait plaisir, d'ailleurs. Maggie,
vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu la réflexion d'un élu UMP, enfin d'un militant UMP qui a dit « Si De Gaulle se retourne dans sa tombe, chaque fois que Chirac fait une connerie, c'est plus une tombe, c'est une centrifugeuse.
» Je crois que c'est un petit peu ça. Je suis fait, d'ailleurs, assez curieusement, au lieu, il aurait dû pas me répondre, normalement, quand on voit ce genre de pensée, le silence, il m'a dit « Mon cher Yves, je vous répondrai avec la même liberté que vous avez écrit à un ancien Premier ministre. » J'ai trouvé ça assez cocasse. Bon, c'est pour qu'il n'a pas le sens de l'humour. Bref.
Ah bon, parce que, comme il a été Premier ministre, il a été tellement brillant qu'il faut le traiter avec considération.
Vous savez bien ce que c'est, rappelez-vous.
Vénération.
Rappelez-vous le brave, comment s'appelait déjà, vous parlez au Premier ministre de la France.
Ah oui, ça c'était Fabius.
C'était Laurent Fabius, là, ouais. Qui était un roquet. Se rebeller ouais. Contre le pied qu'il
est. C'est extraordinaire parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont vraiment accompli quelque chose, qu'ils ont fait le sacrifice de leur personne. J'ai fait le don. Ils ont eux aussi fait don de leur personne à la France. Mais s'ils veulent la garder, leur personne.
Non, ils ont fait le don de leur ombre en réalité. Mais la personne est d'ailleurs. Bon, passons sur ce là-dessus. Mais je dis que si les Français de s'en sortir, ils peuvent s'en sortir, mais ils peuvent s'en sortir en se prenant en main et en consentant de sacrifice. Je prends un exemple très concret. Très concret. On nous dit qu'il nous faut une immigration de travail pour compenser la chute ou la baisse de la population active. Je pense que c'est faux. C'est faux pour deux raisons, parce qu'en réalité, vous venez de le rappeler, l'immigration maintenant est une immigration de peuplement. Sur les quelques 250 000 immigrés, 6 000 au titre des salaires, donc au titre du travail. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Par ailleurs, notre étude, celle qui va être publiée, montre bien.
Vous venez de dire,
comment
c'est fou.
Oui, c'est fou. C'est fou.
Chaque immigré qui travaille, en quelque sorte, représente 40 immigrés qui ne travaillent pas.
Oui, parce que depuis longtemps, depuis au moins 25 ou 30 ans, les émigrés ne viennent pas chercher du travail, ils viennent chercher des subventions. Mais ça, vous le savez, c'est pas nouveau. Mais là, ils sont logés gratuitement, ils sont nourris gratuitement, ils sont soignés gratuitement. Enfin bon, tout cela, c'est archi connu, nous revenons pas là-dessus. Donc, c'est une immigration qui coûte et qui ne rapporte rien. Premier point. Deuxième point, en toute cas de cause, si nous voulons lutter contre la baisse de la population active, eh bien, il faut que les Français retroussent leurs manches. Et comment peut-on se retrousser les manches? D'abord, mettre un terme aux 35 heures et faire ce que les Allemands commencent à faire, que les Japonais ont fait, déjà, revenir à une durée de travail normale. Et une durée de travail, c'est 38 heures ou 40 heures. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je m'en souviens, le samedi jusqu'à 4 heures l'après-midi. Actuellement, les gens commencent à fichre le camp le vendredi à partir de midi.
On vous dit, ça me frappe beaucoup, le jeudi matin, quand vous voyez les gens, ils vous disent, bon, salut et bon week-end.
Et bon week-end, c'est le
jeudi.
Non, mais attendez, si les Français, et ça, il faut être sérieux quelquefois, veulent avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, et ils pourront manifester autant qu'ils voudront.
En l'occurrence, ils ont le beurre et ils donnent l'argent au beurre.
Ils n'auront rien du tout. Ils n'auront ni le beurre, ni le papier qui l'enveloppe. Bon. Alors, ça, c'est un problème.
Il y a quand même un contre-argument, pardon.
Non. Je veux terminer, j'ai pas fini. Sur le problème de la population active, je dis aussi que la réforme des retraites prévoit, comme vous savez, l'allongement de la durée de période de la vie active. Bon, vous savez qu'encore, aujourd'hui, il y a des employés de l'État qui prennent la retraite à 55 ans, en pleine santé. C'est se foutre du monde, ils vont vivre jusqu'à 85 ans, pendant 30 ans au crochet de l'État. Donc, il faut progressivement s'aligner sur ce que font tous les pays étrangers qui repoussent l'âge de la retraite, même certains jusqu'à 70 ans. Et j'irai plus loin. Je dis que il faut encourager aux retraités, et j'en suis un, de reprendre du travail, de revenir sur le marché du travail. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne veut pas le faire. Je dis qu'il faut les encourager, et si on les encourage, si on leur fait comprendre que c'est un devoir personnel que de continuer à contribuer pour l'éducation des jeunes enfants, pour l'aide à ce malheureux pays qui en a tellement besoin, je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre eux viendront combler les trous creusés dans la pyramide des âges
actifs. On nous dit qu'il y a 3 millions de chômeurs. En réalité, il y a 6 millions de chômeurs.
Au moins 5.
Voilà, 5 certainement. Mais il faut ajouter, c'est l'argument que je voulais vous opposer tout à l'heure, il faut ajouter quand même que tous les immigrés ne sont pas des consommateurs simplement, il y en a quand même beaucoup qui travaillent et qui donc cotisent aux caisses de chômage, et le chômage est financé par le travail de l'immigration aussi. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit.
Non, mais si vous nous faites l'honneur de lire notre prochaine publication, vous lirez les calculs qui ont été effectués sur ma demande par un éminent professeur de Lyon, bien connu, c'était l'ancien président de Famille de France. Le travail des immigrés couvre les deux tiers, je dis bien les deux tiers des coûts du chômage, de leur chômage. Et le tiers restant, c'est nous qui le payons. Autrement dit,
je voudrais que vous me
disiez chômage.
Je suis pas un coup. Intelligent, donc oui.
Il y a un coût. Bon, ce coût, il est couvert par les cotisations sociales des immigrés aux deux tiers. Et le tiers restant est couvert par le reste de la communauté française, c'est-à-dire...
C'est-à-dire que si on prend soyons bien clairs, c'est très important, si on prend le nombre des chômeurs immigrés et le nombre des travailleurs immigrés, l'argent versé par les travailleurs immigrés aux caisses de chômage couvre les deux tiers...
Des coûts du chômage
que l'on peut... des immigrés.
Et oui, vous savez pourquoi d'ailleurs, c'est très simple, c'est pour deux raisons, que vous comprendrez facilement. La première, c'est que le taux de chômage des immigrés est plus de deux fois le taux de chômage des travailleurs d'origine française. Donc, il y a par conséquent un impact sur les pensions de chômage qui est déjà beaucoup plus fort. D'autre part, les cotisations de ces mêmes immigrés sont des cotisations relativement faibles. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart de ces malheureux, dans l'état actuel des choses, n'ont pas de qualification. Ils n'ont pas de qualification. Ou une qualification très faible. Or, ce n'est pas vous que j'apprendrai que les cotisations, chômage, maladie, tout ce qu'on voudra, d'un éboueur, n'est pas le montant des cotisations d'un ingénieur informaticien ou d'un cadre supérieur. Ça varie du simple au décuple. Donc vous voyez par conséquent à quel point cette idée avancé pendant des années, annonné par un imbécile comme Jacques Delors. Les immigrés vont bâtir nos cathédrales, ils vont payer nos retraites, est une stupidité, une stupidité criminelle que cet éminent, économiste n'a cessé de proférer. Mais il faut de temps en temps faire comme vous, c'est-à-dire se taper la tête contre les murs. Mais comment des gens qui avaient quand même un minimum d'éducation, on peut le supposer en tout cas, ont pu proférer des mensonges aussi hantés pendant si longtemps?
Ça, je pense qu'il ne faut pas envisager cette question parce qu'on serait amené à dire des choses désagréables. Enfin, moi, je serais amené à dire des choses désagréables et même pécamineuses. Donc, je m'abstiendrai de chercher l'explication à ce mystère.
Non,
absolu.
Nous avons des affaires des sectaires.
Si c'était que ça, ça serait le moindre mal.
Moi, l'idéologie.
Je crains fort qu'on ait affaire à des sicaires.
Ah, les sicaires, c'est encore mieux. Mais enfin.
Docteur Dor, puisque vous nous faites l'amitié d'être présent avec nous.
Voilà, et je suis donc très intéressé par tout ce que j'entends bien.
Ah, bah, sans faux moi.
Mais j'ai entendu plusieurs fois le terme négligence à propos de l'immigration. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout de négligence.
Voilà, je sens que vous allez dire ce que je ne veux pas dire.
Oui. Donc, mais je dirais.
Je vous appelle à la prudence.
On pourrait dire, enfin, ça paraîtrait aussi peut-être encore plus incroyable, la même chose pour l'avortement. C'est le résultat d'une négligence, après tout, mon Dieu. On peut penser que certains, bon, on donne des droits, on ferme les yeux, etc. En fait, pas du tout. Moi, je pense que c'est voulu. Aussi bien l'immigration que l'avortement sont des plans. C'est une vision et qui va très bien, hélas, dans ce que dans la devise qui leur est chère aux francs-maçons, solve et coagula. C'est-à-dire que la façon de dissoudre la France est de
l'urgence. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes, mais
oui.
On a compris ce que vous vouliez dire et je voudrais rendre la parole à monsieur Laurent parce que je voudrais pas mélanger les choses.
Mais enfin, l'essentiel, je l'ai dit.
Voilà, je crois que vous l'avez dit. Effectivement. C'est mon avis aussi. Peut-être que la définition des coupables n'est pas exactement la même. Moi, j'irai un peu plus en amont, mais enfin, bref, on est d'accord sur l'essentiel. Alors, monsieur Laurent, vous nous dites, vous nous avez exposé une des solutions qui est de remettre les Français au travail, mais si vous me permettez de vous le dire un peu brutalement, ça ressemble quand même un petit peu à un vœu pieux. Parce que comment allez-vous faire pour remettre les Français au travail ?
Bien, en les convaincant. En leur faisant prendre conscience du danger mortel dans lequel ils sont confrontés, et en faisant appel à ce qu'il y a de meilleur en eux. Je ne pense pas que l'homme soit fait uniquement d'égoïsme, de stupidité, de revendication et d'amertume. Je pense que chez les Français, chez beaucoup, chez la plupart des Français, il y a un fond qui permettrait de répondre à un appel de ce genre, à condition que le gouvernement, mais là c'est peut-être l'impossible que j'évoque, soit capable de tenir ce genre de discours, au lieu de simplement de faire appel à leur esprit de fainéantise et de lâcheté. Je crois que si l'on disait aux Français, voilà, vous avez le choix, hein, dans 30 ans vous n'existez plus, ni pour vous ni pour vos enfants, ou bien vous prenez en main, vous acceptez de revenir sur les 35 heures, vous acceptez de pousser l'âge de la retraite au-delà des 60 ans réglementaires, vous acceptez, vous qui êtes à la retraite, de revenir sur le marché du travail, de reprendre une activité dans les conditions, bien sûr, à déterminer. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis certain qu'il y aurait beaucoup de Français qui diraient présent.
On est dans un pays où, en gros, il y a 25% de fonctionnaires au travailleurs d'État sur la population active, un peu plus. Vous voyez ce que provoque la seule hypothèse émise par un ministre du non-remplacement des générations partantes dans certains ministères. C'est-à-dire qu'au ministère, par exemple, des anciens combattants, au sous-secrétariat aux anciens combattants, on dit, bon, étant donné que pour des raisons démographiques quand même assez faciles à comprendre, il y a de moins en moins d'anciens combattants, puisqu'ils ne se reproduisent pas, on va peut-être réduire...
Ils ne se reproduisent pas. Je vous dirai la parole immortelle de Mme Réponse Garot à propos des centristes. On ne sait pas comment ils se reproduisent, mais il y en a toujours autant.
Enfin, les anciens combattants, il faut bien reconnaître, il suffit d'assister aux réunions d'anciens combattants, ça a tendance quand même à se réduire.
C'est vrai, c'est vrai.
Et il y a une chose qui ne se réduit pas du tout, c'est le personnel pléthorique du
vous avez un tiers des fonctionnaires qui sont inutiles.
Bon, alors quand
un
on dit à ces gens-là...
Un bon tiers.
Bon, vous êtes intelligent, vous avez un cerveau et tout, vous voyez bien. Il y a un tiers des gens ici qui ne foutent rien. Donc, on ne va pas les virer parce que ça serait désagréable pour eux et leur famille. Puis ça ne ferait qu'ajouter au problème du chômage. Mais simplement, quand ils vont prendre leur retraite, qui est payée par tous les Français, on ne va pas les remplacer. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en grève. Alors, quand il s'agit du ministère des Anciens Combattants, disons que c'est pas une tragédie nationale. La grève des fonctionnaires du ministère des Anciens Combattants, on peut affronter. Bon, mais quand il s'agit de la SNCF, quand on dit aux gens, on a raconté ça 10 fois aux conducteurs de TGV, on va vous supprimer la prime de charbon, les gars disent comment vous supprimez la prime de charbon, on fait la grève, voilà. Bon. Alors, vous avez des gens qui sont dans cette disposition d'esprit, et c'est ces gens-là que vous espérez convaincre de travailler non plus 35 mais 40 heures, et de prendre leur retraite non plus à 55 ans, mais à 70. Moi, à mon avis, ça s'appelle un travail d'Hercule, ce que vous nous
proposez. Oui, bien sûr, mais écoutez, Hercule...
Hercule, il avait des muscles, Hercule sont
nos muscles. Hercule a quand même bien accompli des grands travaux. Je pense que il faut que les Français soient cohérents de deux choses l'une, où ils veulent encore une fois garder tous les avantages dits acquis, qui à mon avis sont des avantages souvent volés à la communauté nationale, ou bien alors ils acceptent de disparaître de la circulation et ils disparaîtront, ça ne fait aucun doute, parce que les avantages acquis vont partir en éclats. Je vous ai dit tout à l'heure que si nous laissons courir les choses, on va se retrouver avec des retraites amputées d'abord de 10%, plus de 15%, plus de 30%. Donc on ne pourra même plus nourrir nos précieux chiens de croquettes. Il faudra leur rationner les croquettes, c'est quand même dramatique.
Et on n'aura même plus le reste de viande, puisqu'on aura.
Oui, j'avais d'ailleurs proposé, parce que oui, je suis un esprit très ouvert, d'instituer des allocations canines. Et puis j'ai réfléchi que pour aider les familles nécessiteuses à élever leurs chiens. Mais malheureusement, les chiens m'ont dit ne cotisent pas pour la retraite.
Les gens finissent par avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des chiens.
Voilà.
Je vous propose de donner la parole aux auditeurs, car il y a une avalanche de questions, de réflexions.
C'est plus des réflexions que des questions.
Je vais quand même résumer, si vous permettez.
On les lit?
On
les lit
en gros,
à la suite et puis vous répondez.
Celles que j'ai vues passer, en gros, c'est...
Celles que je vous ai données.
Non, bon, elles ne sont pas représentatives.
Elles ne sont pas représentatives, c'est vous qui voyez.
D'accord.
Les premières.
Il faut qu'ils foutent le camp, point à la ligne, c'est ça. En gros, ça me paraît un programme un peu, un peu juste.
Intéressant, oui.
Ça mériterait d'être approfondi.
Oui.
Alors, auditeur,
au moins c'est clair.
Un auditeur nous dit, il n'y a pas que vous qui n'êtes pas pour l'intégration. Non, on n'a pas consulté le peuple français pour cette affaire.
Et je veux dire d'ailleurs que les personnes concernées ne sont pas non plus pour l'intégration. Parce qu'ils ne s'intègrent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas.
Non,
ils
pas
n'ont
tous,
pas envie
pas
de devenir
certains
comme
d'entre eux, et de moins en moins d'ailleurs, hélas, effectivement, ne souhaitent pas s'intégrer pour des raisons multiples et variées. Mais il y a quand même un certain nombre qui souhaiteraient effectivement vivre de façon ordinaire, en quelque sorte.
Vouloir l'intégration au forceps confirme la dérive mentale du pouvoir, qui ferait bien de méditer les propos du général de Gaulle sur l'intégration, à savoir, ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils paraissent très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40?
Oui, mais alors, je voudrais poser à l'auditeur la question de savoir quelle est sa solution. Sa solution, c'est quoi? C'est bien beau de dire, donc, il ne faut pas intégrer, on n'en veut pas, mais alors, que va-t-on faire de ces 10 millions, 5 millions? On va les égorger un soir? Mais j'ai l'impression que c'est nous qui allons faire égorger. Donc,
il ne faut pas dire ça.
Moi, je refuse ce genre d'argument. Je les trouve idiots, parce qu'ils ne répondent pas à une vue réaliste du problème. Je refuse de me mettre ma tête dans le sable et de dire, bon, ben, on ne veut pas intégrer, on ne veut rien faire, et puis vogue la galère. Non, ce n'est pas comme ça que l'on peut raisonner et que l'on peut gérer un pays.
Une auditrice, l'intégration est un leurre, l'action Sarkozy est un leurre, et pas besoin d'attendre l'analyse du Figaro, car M. Le Pen avait annoncé tout cela il y a un bon nombre d'années.
Ce sont des réactions de mauvaise humeur. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis pas là pour ça.
Il y a deux problèmes là. Il y a un problème de le fait d'avoir dit les choses. Mais ce qui est très intéressant dans le Figaro, c'est que justement, un journal comme le Figaro publie ce genre d'informations.
Voilà.
Le Libre Journal les a publiés il y a 10 jours. Bon, c'est pas un événement, mais que le Figaro les publie aujourd'hui, ça c'est un événement parce que ça montre qu'il y a vraiment un changement de mentalité.
Voilà.
Alors, si vous avez des questions.
C'est quelqu'un qui abonde dans votre sens. Il y a une différence entre intégration et assimilation. prenez un demi-litre d'eau, c'est un, et un demi-litre de sucre, vous mélangez, il reste sable, donc il y a assimilation. Mais si vous faites la même chose avec de l'huile et de l'eau, eh bien, vous avez l'eau en bas et l'huile en haut.
Bon. Bon, d'accord, donc ça sont des images qui n'apportent absolument aucune contribution au débat.
Quelqu'un qui pense comme vous, un auditeur en 45, il y avait en France 40 millions de Français recensés. Depuis 40 à nos jours, j'ai toujours entendu nos plus éminents ethnologues nous expliquer que les femmes françaises ne faisant qu'1,7 enfant, on ne pourrait pas maintenir le nombre de 40 millions d'habitants. Or, au recensement de 99, nous étions 60 millions, donc les 20 millions de plus proviennent nécessairement de l'immigration.
Propos du recensement.
C'est faux. Il faut répondre là-dessus quand même. Oui, d'abord, le recensement est faux. Ça.
Voilà, c'est ce que
il nous manque entre 1,5 million et 2 millions de personnes au recensement. Hein, pour commencer. Mais pour répondre à l'argument que ces 20 millions de personnes supplémentaires viennent de l'immigration, c'est faux. C'est faux parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'en les années 70, la fécondité des Françaises de souche a été autour de 2 enfants par femme. Elle a même atteint 2,3 enfants par femme. C'est le baby boom. Non, ça permettait une croissance considérable. Et c'est une des fiertés du général de Gaulle, parmi d'autres, d'avoir permis effectivement, par des mesures appropriées, à la famille française de se montrer extraordinairement féconde. On a commencé à se casser la figure à partir des années 70. Et actuellement, nous en sommes, à mon avis, à 1,5.
Mais alors, en l'occurrence, vous parliez du recensement. Le recensement de 99 était déjà faux.
Oui, c'est ça. De façon, on s'est trompé de 1 million, là, 99.
Mais, depuis...
On a fait des progrès, maintenant on se trompe de 2 millions.
Voilà, mais vous avez vu que maintenant, on fait une espèce de faux recensement à jet continu.
C'est ça.
Et on va rendre inextricable les résultats.
Mais c'est exprès, là. Là, je suis d'accord avec le docteur Dor. Là, encore une fois, il y a une volonté délibérée des socialistes, parce que c'est une mesure qui était prise sous le régime de l'infâme Jospin, des socialistes, de l'INSEE, qui est noyauté par la gauche, et bien sûr de l'INED, enfin la personne son directeur, de casser le thermomètre pour ne pas lire la température. Ouais, c'est évident, ça. Et de placer les Français devant le fait accompli. Mais ça, ça fait 30 ans qu'on nous ment. Ça fait 30 ans.
Alors, je voudrais en dire...
J'en ai un seul pour vous. Serge de Becquet, originaire de Russie, comme tous les Européens, vous êtes aussi gaulois que moi, qui descend de parents poitevins. Un Russe n'est pas un maghrébin.
Heureusement.
D'après le syndicat des médecins conseils de la sécurité sociale, ceux-ci auraient à contrôler environ 66 millions de personnes. Or, nous sommes officiellement 61 millions 700 000 habitants.
Non, je pense qu'en fait, l'erreur, elle est de 2 millions. On doit tourner autour de 61,5 à 62 millions. Et la différence... Mais on pourrait le savoir. Moi, je l'ai suggéré à Sarkozy, enfin à Sarkozy et à ses services, en lui disant, il suffirait de recouper les fichiers de la police des frontières, les fichiers de la sécurité sociale, car tous ces messieurs et dames sont dans la sécurité sociale, les fichiers de la police, tous les fichiers disponibles, et là, on saurait... exactement à quoi s'en tenir. On ne le fait pas de façon délibérée. Et là, je me tourne vers Monsieur Dor, pour reconnaître qu'il y a une volonté délibérée qui, j'espère, va disparaître de ne pas savoir la vérité. C'est sûr.
Vous nous avez dit que vous connaissiez...
Mais attendez, je vais aller plus loin. Vous voyez, regardez, j'ai fait dans ce colloque dont je suis très fier, parce que je peux dire que je l'ai porté à bout de bras. S'il a eu lieu, c'est bien, croyez-moi, grâce à des semaines et des mois et des années de travail. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'un certain nombre d'éminents professeurs venant d'organismes publics ont littéralement saboté les résultats de ce colloque, notamment alors que je leur avais payé le voyage, en retirant leurs contributions et en m'envoyant des lettres recommandées pour que je ne puisse pas publier ce qu'ils avaient. Voyez. Donc, j'ai assisté, ce que, avec une certaine naïveté, je ne voyais pas clairement, à la manifestation d'un lobby immigrationniste. Il y a en France un lobby immigrationniste qui plonge ses racines dans l'université, dans des organismes publics comme ceux que je viens de citer, et qui, de propos délibérés, veut que la France devienne multiculturelle et multiethnique. Elle est déjà d'ailleurs.
C'est un peu ce dont témoignait l'information que vous nous donniez tout à l'heure à propos de l'étouffement pendant un an du rapport Lebon. Parce que Lebon fait un rapport, il le remet à son autorité de tutelle, et puis il n'y a plus rien.
Voilà.
on peut quand même se poser la question. Moi, je ne connais pas M. Lebon, mais on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi cet homme-là ne dit pas à ce moment-là, écoutez, ce qui se passe est scandaleux, et moi, je vais manger le morceau.
Eh bien, je vais vous dire, parce qu'il est père de famille, et qu'il a besoin de travailler pour vivre. S'il était retraité, il en irait différemment. Mais il n'est pas encore retraité, par conséquent,
il ne tient pas à être
mis à la porte.
C'est la retraite qui rend courageux, et vous voudriez repousser la retraite de 20 ans, ça ne me paraît pas très rationnel.
La retraite rend courageux, effectivement, parce que à ce moment-là, on le libérait des contraintes professionnelles qui feraient qu'un homme comme lui risquerait de se retrouver sans emploi, puisqu'il est contractuel, et se retrouve au chômage.
Mais c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que ça...
Au contraire, au courage de cet homme que beaucoup de Français pourraient envier et imiter.
Je pose simplement la question, je veux dire, ça manifeste la formidable puissance d'un lobby.
Il y a un lobby migrationniste.
Dit.
Non mais attendez, cette brave femme dont j'ai oublié le nom, Madame Guigou, c'était le plus bel exemple. Ouais. Madame Guigou qui faisait garder sa maison de campagne, comme vous le savez, par une trentaine de gendarmes, nuit et jour. Madame Guigou était la représentante, elle est toujours du lobby. Elle disait, sa brave femme, qu'elle était plus à l'aise en compagnie de maghrébins qu'en compagnie de Français. Je vais vous montrer un petit peu où son cœur se baladait, quoi. Il y a un lobby immigrationniste.
Yves-Marie Leland, on va d'abord, le temps nous oblige à mettre un terme à cette conversation qui dure depuis plus d'une heure dix maintenant. Je voudrais vous remercier d'être venu. Je voudrais inviter les auditeurs à lire le travail que vous avez publié donc sous le titre...
Ces
migrants qui changent la face de l'Europe. Mais je préfère le sous-titre. La Bible de l'immigration, c'est quand même très fort.
Mais c'est aussi, la Bible de l'immigration, je l'ai choisi à dessein.
Donc j'ai eu la primeur, pas entièrement, j'en ai lu une bonne partie qui m'a été communiquée par mon agent à La Havane.
Des voix que j'ignore.
Mais c'est pas vous en l'occurrence, c'est vrai.
Non, c'est pas moi.
C'est un document absolument passionnant. Formidable richesse par le contenu des informations et qui est une arme politique.
Oui, oui.
Très utile.
Oui.
Même indispensable. Parce que quand on nous racontera des carabistouilles maintenant, on pourra sortir le truc en disant voilà les chiffres. Les chiffres, ils sont là, vous pouvez pas raconter le contraire. Ce que le Figaro a très bien compris. Je suis content d'avoir une occasion de dire du bien du Figaro, une fois au moins dans ma vie. Merci Marie Leland. Alors ce livre paraît aux éditions de l'Harmattan dans combien de temps? Une semaine? 15 jours?
Comment? Ça sort? Oh oui, parce que, vous voyez, je vais signer le bon à tirer, je pense, dans 2 jours.
Bon.
Et après, c'est à la diligence de l'imprimeur, mais c'est une affaire de jours, vous voyez.
Et vous serez donc à la fête de la courtoisie?
Ah, bien sûr.
Pour le présenter?
Bien sûr. J'espère, en tout cas, il devrait être sorti à ce moment-là.
Si vous ne venez pas pour celui-là, vous viendrez pour les autres, au moins, quand même, que les auditeurs puissent faire de connaissances.
Bien sûr.
Et vous apporter l'éventuelle contradiction, mais ça m'étonnerait.
Est-ce que vous pouvez rappeler le titre du livre avant?
Alors, le titre, en fait, il y a 2 titres, si vous voulez. Le titre que je lui donnais, oui, c'est ça. Ces migrants qui changent la face de l'Europe, je pense qu'il est très parlant ce titre.
Ouais.
Et je l'appelle, moi, dans la présentation de livre, la Bible et l'immigration, parce que nous avons mis là-dedans tout ce qu'il faut savoir dans l'état de connaissance sur les différentes facettes du problème migratoire, qui est, à mon avis, le grand, grand défi. Non seulement de l'Europe, mais surtout de la France.
Bah écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de vérifier que votre optimisme constructeur, votre volontarisme positiviste sera couronné de succès.
Merci monsieur, c'est mon vœu le plus cher également.
À bientôt.
À bientôt.
Alors, on parlait de la journée du livre de Radio Courtoisie, à laquelle vous êtes invité, je le répète. Et on va entendre une annonce de caractère publicitaire qu'on appelle une réclame pour cette journée. Je sens que je suis en train de me faire des amis.
Dimanche 16 mai, fête de la courtoisie. À l'Eurosite Austerlitz, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres dimanche 16 mai de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter votre bibliothèque. Toute la journée, un buffet gastronomique du Sud-Ouest et le vin de Radio Courtoisie vous accompagneront. L'entrée n'est que de 25 euros par personne. Elle demeure gratuite pour les enfants escortant leurs parents. Demandez dès maintenant vos billets. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 16 mai, fête de la courtoisie, Eurocite Austerlitz, 32 quai d'Austerlitz, Paris 13e, métro Gare d'Austerlitz. Entrée 25 euros. Pour nous écrire, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Alors bien entendu, au stand du libre journal de votre serviteur Serge Beckett, vous trouverez les invités d'une année d'émission.
Ça va faire beaucoup.
Pas tellement finalement, parce que il y a assez peu de... Curieusement, je croyais qu'il y aurait beaucoup plus d'auteurs de livres, et j'ai dû en dénombrer quelque chose comme 20 ou 25 en tout. Alors naturellement, il y a les inévitables, les indispensables. Il y aura Olyndre, il y aura Bernard Anthony avec pour son livre Le dictionnaire de la réplique. Il y aura Daniel Raffard de Brienne, certainement. Il y aura, je pense que l'abbé Cellier viendra. Je pense que qui encore viendra. J'essaierai d'attraire, bien qu'il n'ait écrit aucun livre, mais pour montrer comme il est beau, le docteur Plantin.
Oui, j'ouvrirai la bouche pour le demander. Ouais, ouais. Et le docteur Plantin, parce qu'on va se l'arracher.
Oui, mais il n'a pas écrit de livre. Enfin, on le mettra en bibelot sur le stand.
Sur le coin du stand.
Il fera des consultations gratuites. On le mettra.
Mais alors, docteur, dites-moi, est-ce que je peux prendre des oméga 3 même temps que je prends du Maxepa?
Mais comment il appelle ça, du foutrate de Bougnazol? Du foutrate de Bougnazol. Il y aura le docteur Dor, vous viendrez.
Ah, mais volontiers, si vous m'invitez, je vais bien.
Vous avez commis des livres, vous aussi.
J'ai commis un livre, oui. Ouais. En fait, déjà un peu ancien. Enfin,
mais je ne fais rien.
99, disons.
Un livre n'est ancien que quand il a cessé de plaire, cher docteur. Ça n'est pas le cas du vôtre. Alors, surprenez-moi, de quoi venez-vous parler?
Pendant tout le temps que j'ai entendu parler ici de le problème de l'immigration, on pouvait presque décalquer ça sur l'avortement. Les lobbies, là, j'étais en Angleterre juste pour un congrès en faveur de la vie, et on a beaucoup parlé là aussi des lobbies, International Abortion Lobby. Et là, de même, on peut parler des lobbies immigrationnistes. Et alors, je n'ai pas pu prendre la parole de façon très régulière, disons. Mais ce qui m'intéressait, c'est justement de dire que derrière ces lobbies, enfin, il y avait évidemment une volonté, pour moi c'est le nez au milieu de la figure, on veut détruire l'Occident chrétien. Et peut-être même davantage que enfin, toute la civilisation chrétienne. Moi je pense qu'il faut voir derrière tout ça les chefs d'orchestre. Alors peut-être il y a aussi, peut-être un peu plus que, ça va un peu plus loin que ça. Les principaux, je vois ça avec le planning par exemple, eh bien c'est évidemment la maçonnerie. Moi je ne vois pas un chef d'orchestre plus diabolique finalement, international, répandu partout, c'est le Solvay Coagula, c'est-à-dire, mais j'avais émis un tract à un moment sur la franc-maçonnerie et j'avais cité donc cette devise maçonnique, Solvay Coagula, et j'avoue que j'avais mal traduit la deuxième, le Solvay, ça, c'est tout simple, c'est dissolvé. Et coagula, c'est-à-dire, j'avais dit reconstruisez, non, c'est recomposer. C'est-à-dire que tout sera recomposé à leur façon, évidemment, pas du tout de la façon antérieure, bien entendu. Et voilà. Et alors, je crois que il y a une volonté évidente d'immigration, évidente, on veut noyer le poisson, on veut nous faire perdre notre identité chrétienne et française, je dis bien ça dans l'ordre, n'est-ce pas, chrétienne et française, de même que la déchristianisation passe par la mort de nos enfants. Je dirais, passer d'abord par ça c'est un peu le principal. Il faut que nous perdions notre âme, c'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut, et donc le combat est un combat eschatologique, c'est le combat des fins dernières, Dieu contre Satan. Et on retrouve ça justement avec Chirac, j'étais à Vézelay il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et mon Dieu, c'était... Il est question, enfin, c'est toute la Bible, n'est-ce pas, Dieu contre Satan, n'est-ce pas, et son Fils qui nous sauve, enfin, l'incarnation et la rédemption.
C'est magnifiquement exprimé dans le film de Mel Gibson, Passion. Il y a deux moments que peu de gens comprennent d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à supporter. C'est de voir les enfants se transformer en démons, et on ne peut comprendre ça que si on comprend que c'est le regard de celui qui voit ça qui projette sur les enfants sa propre monstruosité. En l'occurrence, c'est Judas. Judas est attaqué par une bande d'enfants, qui sont des enfants qui jouent, et qui d'un seul coup se transforment en démons, prennent des visages de démons. Et il faut comprendre que c'est pas parce que ces enfants sont des démons. C'est... l'œil, le regard de Judas qui projette sur ses enfants son idée de l'enfance, son idée de l'innocence et de la pureté. C'est vraiment exprimé d'une façon formidable. Et j'ai pensé à ça depuis que j'ai vu ce film, j'arrête pas de penser à cette idée que finalement, tout ce qu'on fait avec les enfants aujourd'hui, depuis le fait, par exemple, incroyablement monstrueux, que l'Organisation mondiale de la santé a inscrit au nombre des maladies l'état de grossesse. La grossesse est considérée comme un état anormal, un état pathologique. Ouais. C'est terrifiant de penser à ça. Ça veut dire que
c'est le virus.
C'est un virus.
Droit, n'est-ce pas ?
Bon, et c'est le regard de Judas sur l'innocence.
Ouais. Mais je crois que c'est un des grands. Je n'ai pas vu le film. J'ai lu pas mal de choses à ce sujet, mais
un
des grands. Oui, je crois. Un des grands personnages de la Passion, c'est Satan. Enfin,
ah oui, bien sûr.
Hélas, enfin,
bien sûr. Bah,
évidemment.
Il est omniprésent. Il est représenté sous les traits d'un être androgyne qui, à un moment, il y a une formidable idée. On voit passer cet androgyne assez féminin derrière la foule et tenant un bébé dans les bras. C'est une configuration de la vierge, d'une vierge à l'enfant, avec le costume, vous savez, le voile, et puis le bébé sur le bras comme ça, et puis le bébé se retourne vers le spectateur et c'est un monstre épouvantable, terrifiant. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est ce que veut exprimer cette image-là, c'est à l'évidence le fait que plus exactement, en opposition radicale au fruit des entrailles de la Sainte Vierge, qui est le Christ, il y a le fruit des entrailles du malin, qui est l'horreur absolue. Mais c'est vraiment un film prodigieusement intelligent, d'une richesse symbolique invraisemblable, inouï, qui va très très loin. Il faut absolument aller voir ce film.
Et puis vraiment, pour les gens qui sont comme moi, qui avaient un peu peur de la violence qu'on nous annonçait, franchement, on peut y aller, on ne tombe pas évanoui à la dixième minute.
Non, c'est vrai qu'on mesure ce que pouvait être la torture qui était infligée aux criminels à cette époque-là, puisque le Christ subit la torture des pires criminels.
Oui, parfaitement.
Et donc, on voit bien que ce n'était pas une époque...
Mais alors, il y a une chose que je regrette, parce que je crois que le film ne le figure pas, c'est que... Et ça, c'est contre les travaux de Barbet qui sont remarquables, c'est-à-dire que la crucifixion se fait dans le poignet. Ça, c'est...
Non, la crucifixion, oui.
N'est-ce pas ? Enfin, dans le film, elle se fait dans la paume,
elle se fait dans la paume.
Je crois que c'est une grande erreur.
Oui, parce que simplement...
Si vous portez un cadavre par les paumes, il tombe.
C'est évident, mais là...
Il est attaché
par les poignets.
Il n'est pas cloué.
Non, il est...
Après, cloué, il est attaché
par les avant-bras et cloué. Mais je crois qu'il ne faut pas attacher d'importance à ça plus que ça n'en a. À mon avis, il s'agit là d'un réflexe artistique, et pour Mel Gibson, c'est par fidélité à toute l'iconographie traditionnelle.
Oui.
Qu'il a fait ça.
Oui, c'est ça. Mais enfin, là, je pense que c'est une concession que je trouve regrettable, personnellement.
Je suis médecin, j'en parlais
à mes étudiants.
Le pied est cloué sur une petite cale.
Et oui, c'est ça.
Il est tenu.
Enfin, bon.
Mais par rapport au reste, c'est vraiment...
Ah oui, c'est un détail.
Et la scène, le flash de la résurrection est extraordinaire.
Ah oui, oui. Alors, c'est un film que j'ai très envie de voir. Je pense que c'est une grâce, ce film, je pense.
Il suffit de voir les gens qui en disent du mal.
Il tient sa troisième semaine.
Oui, exactement.
C'est parti pour la troisième semaine dans les 19 salles de Paris. Moi, je l'ai compté. Hein.
Alors docteur, bon,
voilà, je reviens un peu à mon sujet. Oui. On peut commencer comme ça. C'est que, au fond, quand je pensais à ça assez souvent, l'IVG, vous avez à la fois le mensonge et l'homicide. Le mensonge cache l'homicide. N'est-ce pas? On vous dit que c'est une interruption, donc on peut peut-être reprendre ce qui a été fait.
Oui, c'est comme l'interruption du service sur les chaînes, les lignes de chemin de fer.
Alors c'est horrible, n'est-ce pas? Le mensonge, et ça, on a les caractères diaboliques tout de suite, puis, le mensonge et l'homicide.
Et puis il y a l'utilisation des initiales, enfin des sigles.
Oui, c'est ça.
Pour cacher IVG,
qui aseptise le crime.
Personne ne sait de quoi on parle, bon.
Oui. J'ai vu à Vézelay une petite étudiante, là j'étais chez les franciscaines, tout près de la basilique, et une petite étudiante, une vingtaine d'années peut-être, elle était catholique, mais elle était, elle pensait que le planning c'était bien, que l'avortement après tout c'était un droit, etc. Mais alors je me suis dit, et ça c'est vous-même, tous nous sommes confrontés à ça, que de fois les catholiques, je dirais, mais dérapent sur ce sujet, ben, ils ne sont pas informés, on en veut finalement.
Et puis le planning familial a bénéficié d'un tel support médiatique, d'un tel soutien
médiatique. C'est effrayant.
Elle est fondée uniquement sur le mensonge parce que c'est une planification de mort. Oui. Donc, c'est la solution finale, quoi, tout simplement.
Nous intitulons nous avons notre acte et nous mettons, ça, le mot que j'ai repris en Angleterre, subversion et meurtre. On pourrait dire subversion et crime. N'est-ce pas? C'est ça le planning familial.
Alors,
subvertir et tuer.
On arrive au bout de cette émission. Si vous avez un appel
à. Oui, alors j'ai quelques appels à. Le premier, nous avons lancé un petit journal. Le docteur Perel de la Mayenne en est le directeur, ou je sais pas comment vous connaissez ça mieux pas, président de publication. Alors, l'adresse pour s'abonner, il en coûte 10 € par an, ce qui n'est pas excessif, mais c'est vrai qu'il n'y a que 4 parutions. Et on peut en faire la demande à La Promenade, ça c'est facile à se rappeler, La Promenade, Cosselvivien. Vivien était un compagnon de Charlemagne. Cosselvivien, c'est à 16 km au sud de Laval. Et c'est 53-320, le code postal, 53-320. Alors, si vous écrivez, eh bien, c'est vrai que vous nous ferez extrêmement plaisir parce que nous avons besoin des cotisations pour éponger les frais du journal, qui ne sont peut-être pas très importants, mais enfin, pour nous, c'est quand même quelque chose. Et voilà, vous verrez qu'il y a des auteurs, j'en suis, et qu'il y a un autre auteur qui, lui, se cache sous le nom de Mordicus, mais vous allez vite deviner de qui il s'agit, sous ce quelqu'un de très mordant, bien entendu. Et enfin, c'est un bulletin de liaison aussi qui permet de dire, d'annoncer à Nantes, à Lille, à Grenoble, je ne sais pas où, enfin bon, et nos différentes manifestations. Alors, ne manquez pas. Et alors là, j'en profite pour vous remercier, monsieur Zekech, ainsi que, comment s'appelle-t-elle, cette personne qui est si charmante là, qui écrit des.
Marie-Claude Monchot.
Marie-Claude Monchot, voilà. J'oublie son nom. Marie-Claude Monchot qui a fait une publicité mais charmante en ce qui nous concerne, tout ça. Je la remercie très vivement et donc à travers elle aussi.
C'est une fan inconditionnelle du Docteur d'Or.
Oui, j'en suis
j'ai
très
droit
touché.
À un couplet chaque fois que je l'ai au téléphone.
J'en suis vraiment extrêmement touché.
Alors, il faut dire pour les non-abonnés du livre journal que Marie-Claude Monchot est une grand-mère qui adorable, qui vit en Charente et qui envoie tous les 10 jours un très 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 joli papier où elle raconte soit un événement de son enfance, soit elle donne son opinion sur un événement d'actualité. Et c'est quelqu'un d'absolument délicieux. Elle est elle a été très connue il y a quelques années parce qu'elle a commis un livre qui avait été une véritable bombe dans les milieux de l'édition pour enfants, qui s'appelait Écrit pour nuire, et qui dénonçait l'invraisemblable scandale du pourrissement de l'enfance par certains éditeurs d'ouvrages supposés à destination des enfants. Et le résultat de la publication de cet ouvrage, ça a été qu'elle a disparu totalement, elle a été censurée par tous les éditeurs, elle n'a plus pu publier quoi que ce soit, alors que c'est une formidable conteuse, et c'est une délicieuse dessinatrice, en plus. Elle raconte des choses, elle a publié à l'époque un livre qui s'appelait Le Manoir des Chimères, qui était un livre absolument prophétique sur les manipulations génétiques, qu'on trouve peut-être aujourd'hui chez Lundi, encore, vous savez, l'éditeur Ulysse à Bordeaux, il doit lui en rester quelques exemplaires, mais très peu, et qui était une véritable prophétie. Enfin, c'est un très grand bouquin.
Alors, je voudrais ajouter que nous avons une manifestation à Paris le 24 avril, le samedi, à 14h30, toujours devant à proximité du siège parisien, c'est ça, du planning familial, métro Bourse, au coin de la rue 4 Septembre, Vivienne, à 14h30, samedi 24. Et alors, pour dire aussi que une chose curieuse, vous allez voir, c'était le 27 mars à Lille, il y avait une manifestation devant le planning, au cœur même de Lille, et là, il y avait, enfin, je n'étais pas là, j'étais en Angleterre, il y avait dans le côté 28 sympathisants, dont des enfants très petits, et en face, alors il y avait beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde, il y avait Martine Aubry, tenez-vous bien, maire de Lille, il y avait le président du Conseil Général du Nord, et il y avait parmi tous les gauchistes, les drapeaux de Ralfran, tout ça, il y avait deux religieuses, vous me direz. Ah, alors c'était assez curieux. Deux religieuses, mais vous l'avez deviné, c'était des fausses religieuses, c'était des hommes déguisés en religieuses et des homosexuels qui chantaient des Gloria et tout ça. Alors là, je veux dire, c'est au fond, voilà.
Ça n'étonne personne. Docteur, je suis obligé de vous couper, si j'ose dire, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Je dis aux auditeurs, à la semaine, non pas la semaine prochaine, à bientôt, puisque la deuxième partie de l'émission sera assurée par nos jeunes Européens.